Bien. Alors bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Je ne vais pas refaire la blague de la semaine dernière, disant que la honte attire beaucoup plus de monde que la haine, mais ça se confirme en tout cas, puisque là c'est complet depuis déjà quelques jours, donc je suis le premier à m'en réjouir. Donc je suis très heureux de vous voir à nouveau si nombreux pour cette nouvelle séance des bibliothèques de l'Odéon consacrée à la honte. Et je remercie une fois de plus le Théâtre de l'Odéon et Marie-Hélène Boulan de nous accueillir au titre d'un partenariat avec l'École normale supérieure. Je voudrais aussi remercier Alice Billon, que vous avez déjà entendu la dernière fois, qui avait lu les textes, qui est élève à l'École normale supérieure et qui prêtera sa voix encore une fois au texte dont la lecture va ponctuer cette séance. Mais je veux surtout remercier mon ami Guillaume Leblanc, avec lequel je suis particulièrement heureux de pouvoir dialoguer ce soir autour du thème qui va nous retenir. Guillaume est un des philosophes de notre génération commune, puisqu'on est à peu près de la même génération, pour le travail duquel, je vais le dire sans le faire rougir de honte, justement, pour lequel j'ai une très grande admiration, et le sentiment d'une réelle proximité de pensée. Donc j'espère que ça s'entendra ce soir, mais il y a une vraie complicité intellectuelle qui nous lie dans nos travaux respectifs. Ces travaux ont pour caractéristique principale, pour vous le présenter, de se situer à l'articulation de la philosophie morale et de la philosophie politique, comme le titre des quelques livres que je vais citer l'indiquent suffisamment. Ils portent leur attention. C'est vraiment ce qui le distingue. Je crois que c'est comme ça, que c'est ce qui dessine sa place en philosophie aujourd'hui. Leurs livres se distinguent par l'attention qu'ils portent à la vie des plus démunis, des déshérités, des laissés pour compte de la société. Une attention qui est évidemment portée par une pensée de la justice. Ces titres, vous allez immédiatement entendre ce à quoi je viens de faire allusion dans les titres des livres. Je vais en citer quatre. En 2007, « Vie ordinaire, vie précaire ». En 2010, « Dedans, dehors, la condition d'étranger ». En 2014, un titre absolument magnifique chez Bayard qui s'appelle « L'insurrection des vies minuscules ». L'insurrection des vies minuscules, et en 2014 encore, un livre dont il sera question tout à l'heure, un peu plus précisément, qui s'appelle « Que faire de notre vulnérabilité ?» La condition d'étranger, la condition de réfugié, c'est de celle-ci que nous allons repartir dans la séance d'aujourd'hui, consacrée au lien entre l'expérience de la honte et l'épreuve des catastrophes. Et la catastrophe, donc, dont je voudrais repartir aujourd'hui, après en avoir parlé avec Guillaume, nous sommes vus à plusieurs reprises pour scénariser un peu cette séance, comme à chaque fois, la catastrophe dont je voudrais repartir, c'est celle qui se déroule aujourd'hui encore, chaque jour, depuis des mois. C'est celle qui lie la condition de réfugié au péril d'une fuite improbable, pleine d'écueils. La catastrophe, c'est celle des noyés de la mer Égée, des disparus de la Méditerranée et de toutes les autres victimes de cet exil forcé. Et la question est la suivante. Comment tout cela se lie au thème de la honte? La question est la suivante. Pourquoi, et beaucoup m'en ont fait part tout au long de l'été, beaucoup de gens croisés, d'amis croisés. Pourquoi avons-nous éprouvé un irrépressible sentiment de honte? Pourquoi, dans un mouvement de colère légitime, nombreux sont ceux et celles qui se sont dit que les tergiversations de l'Europe, des dirigeants européens, les réactions xénophobes de plusieurs d'entre eux et de nombreux citoyens d'Europe étaient la honte de l'Europe? D'où vient la honte que nous éprouvons, d'une façon générale, devant les victimes des catastrophes? Quelle est la nature du lien qui nous attache à leur vulnérabilité? Vous avez entendu tout à l'heure combien cette question de la vulnérabilité est présente dans le travail de Guillaume. Donc, quelle est la nature du lien qui nous attache à leur propre vulnérabilité? Voilà les premières questions que je vais poser à Guillaume et que je voudrais donc te poser. Mais avant, je voudrais que nous entendions deux textes qui disent, mieux qu'aucun autre, en quoi consiste cette vulnérabilité, celle du réfugié. Ces deux textes, il s'agit d'abord d'un extrait du roman de Laurent Godet, intitulé « Eldorado », que va nous lire Alice. Et une fois n'est pas coutume, je le fais très rarement, mais là, ça s'imposait. En général, je ne lis pas dans ces séances, je ne lis pas des textes des invités, mais là, je vais le faire, parce qu'il y a une page du livre de Guillaume que j'ai évoqué tout à l'heure, « Que faire de notre vulnérabilité ?», qui, je trouve, s'accorde particulièrement bien à ce point de départ. Donc, Alice, c'est à vous. Donc, d'abord, le texte de Laurent Godet, et ensuite, presque comme un quasi-commentaire à ce texte, le passage du livre « Que faire de notre vulnérabilité ?». Nous vous écoutons.
Les corps serrés autour de moi commencent à suer. Il fait chaud dans la camionnette. Nous quittons Al-Zouara et ses faubourgs. Cela fait 2 jours que nous attendions l'arrivée des passeurs, tous entassés dans un appartement vide. Il a fallu être patient. Je n'ai pas cessé de penser à Jamal. J'étais plein de lui, encore. Des mots qu'il avait prononcés, de son visage. Les corps serrés autour de moi commencent à suer. Combien sommes-nous ? 20 entassés les uns contre les autres. Je ne connais personne. Je n'ai parlé à personne. Pendant 2 jours, nous nous sommes regardés avec défiance. Tout le monde craint de se faire voler. Tout le monde est si fatigué que seul le silence convient à notre usure. Je ne suis pas là, pas avec eux. Je veux rester le plus longtemps possible avec mon frère. Je pense à la tristesse de son voyage de retour. Il a dû tout refaire en sens inverse, mais sans hâte. Il a dû sentir davantage la fatigue, trébucher plus souvent. La route a dû lui sembler plus longue et étrangement laide. Il a certainement passé la frontière sans encombre. Qui l'empêcherait de rentrer au pays? On n'arrête pas les voyageurs dans ce sens. On sourit à leur infortune. Ceux qui n'ont rien trouvé là-bas. Ceux qui ont échoué ou qui ont eu peur au moment de s'embarquer. Il a dû rentrer, oui, avec la maladie, seul pour veiller désormais sur lui et le dévorer avec patience et minutie. Je pense à lui et je me jure de continuer coûte que coûte. Je vais réussir. C'est la seule solution. Jamal a tort lorsqu'il parle de son agonie programmée. Il a tort lorsqu'il s'imagine sans argent, reclus comme un lépreux. Je vais passer en Europe et je vais travailler comme un damné. Si les choses sont telles qu'on les dit, je ne tarderai pas à accumuler un peu d'argent. J'enverrai tout là-bas, le plus vite possible. Il faut que l'argent afflue vers mon frère. Il verra alors que Soleiman est plus fort qu'il ne le pensait, que Soleiman peut se priver de tout pour être à ses côtés. Je travaillerai comme un chien, oui. Cela n'a aucune importance, je suis jeune. Il pourra s'acheter ses médicaments. La lutte a commencé. C'est une course et je dois être efficace et rapide. À peine le pied en Europe, je chercherai du travail, n'importe quoi. Jamal a tort, nous sommes 2. Et je ne l'oublie pas. Le camion roule. Je sens une force sourde qui monte en moi. Jusqu'à présent, je n'avais fait que suivre mon frère. Maintenant, je pars pour le sauver. Je ne dormirai plus la nuit. Je me nourrirai de rien. Je serai dure à la tâche et infatigable comme une machine. On pourra m'appeler esclave, je n'en aurai cure. La fatigue pourra me ronger les traits, je n'en aurai cure, j'ai hâte. Le camion roule. Nous laissons les faubourgs d'Al-Zouara derrière nous pour aller trouver le navire qui nous emmènera en Europe. Dès demain, j'y serai. Dès demain, alors, j'enverrai de l'argent à Jamal. Je me concentre sur cette idée. Je suis une boule dure de volonté et rien ne me fera dévier de ma route. La promiscuité des autres corps ne me gêne pas. Les visages des autres hommes ne me font plus peur. Je n'ai qu'une hâte, que le bateau quitte l'Afrique et que mes mains se mettent à travailler.
Bien, merci pour ce premier texte de Laurent Godet, donc de Eldorado. Et donc maintenant, si vous voulez bien nous lire la page du livre « Que faire de notre vulnérabilité ?».
c'est que ne pas avoir de place, être sans place dans l'obligation de se déplacer, c'est en venir à interroger l'ordre de la cité qui produit la place des uns et l'absence de place des autres. Un monde où il n'y a pas de place pour tout le monde, peut-il être encore un monde ? Le sentiment d'exclusion qui est aujourd'hui partagé par presque toutes les vies, du fait de la raréfaction des places et de leur précarité, relie encore cependant les vies les unes aux autres. En nous reconnaissant chacun à notre manière comme vulnérable, comme exposé à toutes les formes de violence physique, sociale et psychique, nous faisons un pas vers une compréhension de l'exclusion comme une chose commune, plutôt que comme la seule affaire des exclus.
Bien, merci. Alors, merci beaucoup, Alice. Donc, Guillaume, peut-être pourrait-on repartir de ces deux textes et de ce qui lie ici l'expérience de la vulnérabilité, en tout cas l'appel, la responsabilité qu'appelle cette vulnérabilité, et l'expérience de la honte.
Oui, merci beaucoup Marc pour cette présentation, pour ce dialogue que nous allons faire à trois voix et à plus de voix ensemble aujourd'hui. Je suis très, très heureux de pouvoir ici prendre la parole depuis ce premier texte de Laurent Godet qui est au fond, qui raconte la trajectoire, l'itinérance au sens fort du terme, de deux frères qui veulent partir d'Afrique pour tenter leur chance vers ce qu'ils pensent être l'Eldorado, c'est-à-dire l'Europe. Et il se trouve que, effectivement, au moment où, un peu de temps avant la lecture de ce passage, le frère aîné qui avait développé toute la stratégie du voyage pour les deux apprend au second qu'il est atteint du sida et qu'il ne pourra pas faire ce voyage. Ce qui, dans un premier temps, provoque l'affaissement psychique de son frère. Et ce que je trouve très, très beau, au fond, dans ce passage, c'est que c'est le passage au futur, finalement. Il y a un principe d'espérance qui renaît à l'intérieur du voyage du frère cadet, qui trouve une raison supplémentaire de partir pour venir soutenir son frère aîné, qui, en théorie, était là pour le soutenir lui-même. Donc on a une espèce de circulation de la chaîne de soins dans un moment d'extrême vulnérabilité. Ces corps qui sont entassés les uns sur les autres dans ce camion qui dessine déjà une espèce de communauté fragile. Au fond, la question, c'est que faisons-nous de cette extrême vulnérabilité ? Et c'est effectivement cette question que j'ai relayée dans le passage que vous avez lu. Pourquoi ? Parce que trop souvent, nous partons d'une espèce d'évidence comme ça, entretenue socialement, culturellement, politiquement, moralement presque, selon laquelle la vulnérabilité de certaines vies relève de ces vies-là et ne nous concerne pas. Comme si, au fond, il y avait une sorte de neutralisation du scandale de la vulnérabilité par le fait que ça arrive aux uns et pas aux autres. Alors, il me semble que, c'est le sens de mon intervention, que justement, cette espèce de clôture selon laquelle la vulnérabilité des uns renvoie à l'invulnérabilité des autres, cette clôture doit être absolument défaite. Et je crois que la première honte que nous pouvons éprouver, c'est celle justement de cette clôture selon laquelle, voilà, il y a des vies qui sont potentiellement plus vulnérables, c'est-à-dire que, comme si au fond la vulnérabilité était attachée à la qualité de certaines vies, comme si c'était une qualité attachée à certaines vies, et comme si au fond la vulnérabilité n'était pas partagée. Je rappelle, de ce point de vue, que vulnérable, c'est vulnérable celui qui est exposé, vulnus, hein, en latin, à la blessure. Une vie vulnérable, c'est une vie exposée à la possibilité de la blessure. Et de ce point de vue, reconnaître que nous pouvons être blessés par un mot, par une condition sociale, par un titre, un papier que nous n'avons pas, etc., c'est d'emblée comprendre que l'humanité est précisément fragile et que précisément cette fragilité ne relève pas de certaines vies simplement.
D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être... qu'est-ce qui, dans cette expérience que tu découvres, je suis tout à fait d'accord avec toi, d'où procède la honte, et peut-être revenir alors sur ce dont je suis parti tout à l'heure, ce sentiment ce sentiment de honte qu'on a pu éprouver cet été devant l'abandon des réfugiés eux-mêmes, devant ces tragédies répétées dans la mer Égée, dans la mer Méditerranée. Alors comment l'expliquer et comment l'analyser, ce sentiment de honte?
Alors je pense qu'il faut déjà avoir une lecture un peu nuancée et un peu critique de cette notion de honte.
Oui.
Dans la mesure où, au fond, nous devons nous interroger sur le fait de savoir quand est-ce que nous prenons honte véritablement de quelque chose qui arrive. Et c'est vrai que très souvent, il y a une espèce de spectacularisation de la vulnérabilité, de la misère, qui est comme une condition notre sentiment de honte. Je veux dire par là que, au fond, la honte arrive à un moment donné avec les réfugiés cet été, mais pourquoi n'est-elle pas arrivée avec les drames antérieurs? Pourquoi n'a-t-elle pas surgi sur des génocides africains antérieurs? Comment est-elle construite? Il y a, de ce point de vue, je crois, à comprendre que nos sociétés s'émeuvent fortement, très souvent, s'indignent, et que, de ce point de vue, la honte intervient déjà comme une sorte d'indignation spectaculaire par rapport au monde. Et ça, je crois que c'est un élément qu'il faut interroger, dans la mesure où la honte risque de n'être tout compte fait qu'une simple plainte sentimentale face à ce qui arrive, aussitôt refermée, qu'elle n'a pas réussi à donner lieu à une action. Et le drame qui, de mon point de vue, fait naître un sentiment peut-être plus authentique de la honte, c'est que le discernement de l'intolérable que je perçois face à ceux qui arrivent, face aux disparus de la Méditerranée, ne peut pas facilement trouver de relais dans une action. Et ce divorce entre, au fond, une perception d'une situation comme intolérable et l'absence de solution, l'absence d'action qui naîtrait de ce sentiment de l'intolérable, crée, je crois, véritablement le concept de honte. Au fond, j'ai d'abord honte de ce que, justement, ma honte ne débouche sur aucune action possible. Et ça, je crois que c'est au fond une manière de prendre le sentiment de honte du point de vue d'un divorce qui existe et qui est comme une qui constitue une espèce de tragédie de la honte, qui est que, au fond, la honte ne parvient pas à constituer une réplique à l'objet de la honte. Et ça, je crois que c'est un point de départ qui nous alerte sur ce divorce.
Est-ce que ça veut dire, si je mets d'autres mots sur ce que tu es en train d'expliquer, qui je crois est vraiment important, est-ce que ça veut dire que la honte serait, la honte que l'on ressent devant ces catastrophes et devant beaucoup d'autres, on parlera, vous allez le voir d'ici quelques minutes, d'Hiroshima, et on va parler assez longuement d'Hiroshima, est-ce que ça veut dire que la honte qu'on éprouve devant des catastrophes de cet ordre est liée à une responsabilité, à un sentiment de responsabilité qu'on ne peut pas assumer, à l'éveil d'une responsabilité qu'on ne peut pas assumer?
Oui, parce que justement, on dit souvent, quand on réfléchit au terme de honte, que j'ai honte d'une situation, ou j'ai honte d'être confronté à ce problème. Et comme si dans l'attitude de la honte, on se situait face à quelque chose, en vis-à-vis d'eux. Et vous remarquerez que ce vis-à-vis, c'est dans ce vis-à-vis que s'engouffre quelque chose comme un spectacle de la désolation. Parce qu'au fond, avec la honte, je suis placé face à. Mais je crois que justement, ce qui, en réalité,
construit le sentiment de honte, c'est que dans la honte, je me sens justement lié à,
non, j'allais y venir, justement.
À l'existence qui est face à moi. C'est-à-dire que ce face-à-face, au fond, ce face-à-face cesse d'être un face-à-face pour devenir pour au fond devenir un à côté. Je suis à côté d'une existence à laquelle je ne peux répondre que par un sentiment de honte qui ne débouche sur aucune action.
Alors est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que dans le fond, la honte aurait quand même l'effet d'un révélateur,
oui.
Et qu'elle nous révélerait quelque chose sur la condition humaine, sur notre appartenance au monde, sur notre condition humaine, qui serait quelque chose comme une solidarité, mais impossible à assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire une solidarité qui ne peut pas déboucher sur les actions par lesquelles elle se manifesterait.
Ça, c'est au fond, je perçois la honte, c'est d'abord une perception. Je perçois quelque chose qui ne me convient pas. Il y a donc une dimension d'intolérable au cœur de la honte. Ce qui est devant moi ne me va pas. Non seulement ne me va pas, mais ce qui est devant moi, d'une certaine façon, menace ce pourquoi j'existe. Et donc, dans la honte, je sens, et c'est un sentiment, et c'est pourquoi il faut aller du côté de la perception, je sens et je perçois que cela devrait être autrement. Et justement, ce qui fait honte, c'est que, alors que ça devrait être autrement, cela est précisément ainsi, et non seulement cela est ainsi, mais cela insiste. Le drame de la Méditerranée, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est avant-hier, c'est demain, ce sera après-demain. Ça persiste et signe. La dimension de l'intolérable, elle se répète précisément. On n'arrive pas à l'arrêter. Et justement, ce qu'il y a de très fort en ce sens, dans ce sentiment de la honte, c'est que je discerne donc un mal. Au fond, avoir honte, c'est discerner, dans une perception, un mal qui, et c'est là où on renvoie la notion de catastrophe, c'est discerner un mal dans la réalité. La crise des réfugiés en soi est une catastrophe parce que je discerne au fin fond de mes sentiments ce qu'il y a de mauvais dans cette situation.
Alors pour rester
précisément, voilà, c'est
pour rester encore quelques minutes sur la crise des réfugiés avant de passer à la lecture d'autres textes et de revenir à Hiroshima. Là, ce que on vient d'exposer, ce que tu viens d'expliquer avec beaucoup de justesse, c'est la honte comme sentiment moral. Et je m'interroge, moi, maintenant, sur la dimension politique de ce sentiment. C'est-à-dire, quand on dit, comme ça a été écrit beaucoup cet été, que, dans le fond, les tergiversations des dirigeants européens pour savoir qui accueillerait le moins de réfugiés ou qui n'en accueillerait pas, quand on a pu dire que ça avait fait, d'abord... sans doute effectivement voler en éclats une partie du rêve européen, mais qu'en plus c'était quelque part la honte de l'Europe. On ne le dit pas seulement, si on accorde du crédit à cette expression-là, on ne le dit pas seulement en renvoyant à un sentiment moral, mais on dit aussi quelque chose de politique. Alors comment analyser la honte ? Qu'est-ce qu'il y a de politique dans cette... Dans le fond, dans cette accusation, quand on dit c'est la honte de l'Europe, c'est la honte des dirigeants européens de ne pas s'être entendus pour trouver une solution pour accueillir les réfugiés de façon rationnelle, construite, pour adopter la politique commune qui serait à la mesure de la tragédie qui se joue aux portes de l'Europe.
Justement, ce qu'il y a de proprement... on retourne l'argument de la honte, alors c'est intéressant de voir qu'il y a une réversibilité de ce sentiment de la honte, puisqu'au fond, j'ai d'abord honte de l'exode des réfugiés, donc des conditions qui sont faites à ces vies, qui sont rendues invivables, etc. Et ensuite, il y a une espèce de propagation de la honte qui revient vers celui qui formule ce sentiment, c'est-à-dire vers l'Européen, vers, en disant, mais au fond, quelle est la réponse de l'Europe face à cela? Et on voit par là que la honte se redouble par l'absence de réponse à un mal. C'est-à-dire que quand un mal se produit quelque part, il doit y avoir à un moment donné une réponse, une réparation. Pas une réparation forcément au sens de on annule ce qui a eu lieu et au fond on est capable de passer à autre chose, mais il doit y avoir une réponse. La politique, elle commence en apportant des réponses à quelque chose comme un mal. Et je crois qu'on a perdu cette idée que la politique était une réponse à un mal. Avec des discernements et des nuances, quand les hommes politiques aujourd'hui ne cessent de raffiner dans le découpage des réfugiés, combien ici, combien là, etc., quand ils ne cessent d'affirmer que certaines migrations actuelles n'ont aucun avenir en Europe, une formule quand même terrible, aucun avenir, c'est-à-dire qu'elles sont renvoyées à quoi? Au passé de la catastrophe. À ce moment-là, je crois qu'on accrédite l'idée que la politique, effectivement, ne se situe pas fondamentalement comme une réponse au mal, mais comme une administration, au sens presque terrifiant du terme, comme une administration de ce qui est. Alors je dirais que, exactement comme on gère le nombre de fonctionnaires dans tel et tel pays, on va gérer le nombre de réfugiés dans tel et tel pays. On va rentrer dans des discussions byzantines sur les quotas, sur les ceci, etc. Parce que le souci fondamental, c'est non pas de répondre, mais d'administrer. Et en ce sens, je crois que le courage politique consiste à dire que l'administration d'un problème ne tient pas lieu de réponse au mal inhérent à ce problème.
Et est-ce que ça veut dire que, dans le fond, la politique... Est-ce que quand tu dis, voilà, la politique ne devrait pas oublier qu'elle doit toujours répondre à un mal et répondre d'un mal, est-ce que c'est pas rappeler aussi qu'elle doit toujours, qu'elle devrait toujours être guidée par un principe de justice ou par une certaine idée de la justice? Parce que ce que tu es en train de rappeler là n'est pas fondamentalement lié à l'idée de justice.
Oui, c'est ça, la justice, qu'est-ce que c'est au fond? C'est avoir la possibilité de répondre à, au fond, à une dette qui vient, qui vient d'une réalité. Je crois que on parle beaucoup de dette aujourd'hui, mais dans un tout autre sens. Mais peut-être faudrait-il rétablir l'idée que l'homme politique au sens large du terme, le citoyen, etc., est en dette par rapport à des réponses qu'il doit apporter. Tout à l'heure, je m'autoriserai, puisque tu as cité un de mes passages, à lire un bout de ton consentement meurtrier sur la notion de dette, mais je crois que c'est très important, cette idée de la dette. Au fond, nous avons à comprendre que nous sommes en dette à l'égard, justement, des réfugiés, parce qu'une commune humanité se développe là où nous voudrions, où certains voudraient accréditer l'idée, justement, de frontières, de murs, comme seule manière de partager entre la vulnérabilité des uns et l'invulnérabilité des autres. Et ça, ça a des effets absolument désastreux. Ça suppose que, justement, nous continuons à vivre en quelque sorte le fantasme d'une espèce d'absence de souillure totale à l'égard de tout ce qui viendrait présentement nous vulnérabiliser, même si le nombre de réfugiés en Europe aujourd'hui pourrait éventuellement passer de 0,5 à 0,8% de la population. Donc essayons là encore peut-être de répondre de manière plus rationnelle à ce qui est en train d'arriver. Et je crois que la honte, c'est un premier discernement sentimental de ce qui arrive, mais qui doit être prolongé effectivement par une rationalité, par une raison qui vient universaliser au fond ce qu'il y a de scandaleux dans l'objet même de la honte.
Bien, merci beaucoup. On va pas quitter les considérations dans lesquelles on est engagé depuis
une demi-heure, mais peut-être un peu les déplacer. Et en préparant cette séance, même en pensant à cette séance très longtemps à l'avance, c'est-à-dire quand j'ai commencé à construire ce programme à la veille de l'été, je savais qu'il y aurait une séance consacrée à honte et catastrophe. Il y a une catastrophe parmi tant d'autres dont je ne pouvais pas détacher ma pensée, qui était la première qui s'imposait à moi. C'est celle qui s'est produite il y a près de 70 ans, les 6 et 9 août 1945 exactement, à Hiroshima et Nagasaki. Et ce n'était pas tout à fait par hasard, et c'était même pour une raison très précise, c'est parce que lorsque dans les années 1960, le grand écrivain japonais Kenzaburo Oe, prix Nobel de littérature, la honte, c'est un mot très fort pour Kenzaburo Oe, récemment encore, il publiait une grande tribune dans laquelle il parlait de la honte du Japon aujourd'hui, en pensant au nucléaire, à Fukushima, aux conséquences de Fukushima, etc. Eh bien, lorsque, dans les années 60, le grand écrivain japonais Kenzaburo Oe et le philosophe allemand qui est connu comme l'un des philosophes qui s'est le plus opposé au nucléaire, c'était même le premier, ou en tout cas l'un de ceux qui a le plus écrit contre la bombe atomique, mais de façon inlassable, cet écrivain allemand, c'est Günther Anders. Lorsque l'un et l'autre font, dans des circonstances diverses, le voyage à Hiroshima, et qu'ils rencontrent les survivants, les survivants, c'est-à-dire les victimes survivantes, ce qu'on appelle en japonais les Ibakusha, eh bien, l'un et l'autre placent au cœur de leur réflexion, et de leur récit et de leur réflexion, la honte. La honte dans sa double dimension, et c'est de cette double dimension dont on va parler tout à l'heure, d'abord la honte des victimes, d'abord la honte des survivants et la honte des victimes, d'une part, et puis d'autre part la honte de ceux et celles qui en sont les témoins, comme si cette honte, qui est dans le fond la honte de ce que les hommes peuvent faire aux hommes, on reviendra longtemps sur ce syntagme tout à l'heure, comme si cette honte, la honte de ce que les hommes peuvent faire aux hommes, était un élément essentiel de la réparation, comme si la honte faisait partie de la réparation. Donc on va écouter deux extraits, justement, qui vont mettre... Hein, le premier de Günther Anders, du philosophe allemand. Et Günther Anders raconte, il faut que je vous situe un tout petit peu, donc il y a une délégation d'intellectuels, et pas seulement d'ailleurs, enfin de personnalités européennes, et pas seulement européenne, qui se rend à Hiroshima. Et ils ont tout un parcours comme ça, ils sont très souvent divisés, ils participent à des réflexions, des séances, et ils ont un jour où ils sont appelés, dans le cadre de leur parcours officiel, à rencontrer les victimes. Et c'est ce passage-là très précis que j'ai choisi de demander à Alice de nous lire. Et à l'inverse, le passage qu'on va entendre immédiatement après est un passage de Kenzaburo Oe, donc le grand écrivain japonais, qui lui aussi parle, alors cette fois-ci, non plus de la honte qu'il ressent lui-même, ou de la honte des témoins, mais de la honte des victimes elles-mêmes. Et j'ai trouvé, il m'a semblé, on va y revenir, qu'il pouvait être intéressant pour nous d'entendre, dans le fond, ces deux évocations de la honte en parallèle. Donc Alice, c'est à vous.
Je le répète, j'ai surtout à l'esprit cette soirée au cours de laquelle les victimes survivantes d'Hiroshima tentèrent de nous décrire la seconde à laquelle c'est arrivé, et les minutes et les heures qui ont suivi cette seconde. L'homme d'affaires européen qui s'était égaré un instant dans le jardin de l'hôtel où nous étions réunis et qui nous a vus tous blancs, noirs, jaunes et bruns dans la même attitude, c'est-à-dire les yeux baissés vers le sol, a certainement vu un rituel communautaire dans ce comportement identique. Ou alors il a dû être persuadé que nous étions en train d'accomplir là une expérience en commun. Inutile de souligner une fois encore que l'identité du comportement n'était rien d'autre que l'identité du sentiment. Vous allez demander de quoi était fait ce sentiment, identique chez nous tous. La réponse à cette question, et elle n'a cessé d'être donnée dans d'autres conversations et par des bouches à chaque fois différentes, ce sentiment consistait dans le fait que nous avions honte les uns devant les autres, et plus précisément que nous avions honte d'être des hommes. Voilà qui peut sembler étrange, peut-être même prétentieux, ou même apparaître d'un manque de solidarité révoltant. C'est possible. Nous n'avions pas le temps d'y réfléchir. Reste que la première réaction fut de refus. Refus de reconnaître comme étant des nôtres, refus de nous compter parmi ceux qui avaient été capables de faire cela à l'un d'entre nous. Qu'on ne se méprenne pas, ce qui est décisif n'est pas l'élément de désolidarisation que comportait ce sentiment de honte, mais à l'inverse, justement, la communauté de cette désolidarisation, c'est-à-dire la nouvelle solidarité devenue réalité à cet instant. C'est pourquoi il est déplacé de s'indigner de cette honte que j'ai vécue souvent après mon retour. En ce qui me concerne, en tout cas, jamais je n'ai ressenti avec une telle force et une telle douleur ce qu'est l'humanité, Menschheit, qu'en ces heures de désolidarisation. Lorsque des voisins à côté de toi, peu importe qu'ils soient africains, américains, allemands, russes, birmans ou japonais, perdent l'usage de la parole pour la même raison que toi, alors l'humanité en nous n'est pas blessée, mais bien plutôt rétablie, et même peut-être réellement établie. C'est pour cette raison que je dédie les pages qui vont suivre à ceux qui ont eu honte devant moi d'être des hommes, comme moi j'ai eu honte devant eux d'être un homme.
Alors ça c'était le texte donc de Günther Anders, un texte vraiment extrêmement fort, hein, avec qui donne une analyse très profonde, on va y revenir. Et donc maintenant le texte de Kenzaburo Oe, extrêmement émouvant.
À propos d'humiliation et de honte, dans le cas de ce vieillard qui, ayant échoué dans sa tentative de s'ouvrir le ventre pour protester contre la reprise des essais nucléaires, ne cessait ensuite de répéter qu'il était réduit à vivre dans l'infamie, c'est le sentiment de honte en tant que tel qui forme la substance même de la dignité. J'ai évoqué aussi la culpabilité des Ibakushas âgés qui ont survécu à l'égard de ce qu'ils perçoivent comme le monde à l'envers. De même, lors de mes retrouvailles avec une jeune femme rencontrée l'année dernière à l'hôpital de la bombe A et qui était de nouveau soignée dans cet établissement, celle-ci m'a confié qu'elle avait honte d'elle. Hiroshima, c'est cela. C'est un endroit où de nombreuses jeunes femmes, marquées au visage par d'affreuses kéloïdes, vivent cloîtrées chez elles parce qu'elles se font honte. Or, cette sensation éprouvée par les victimes du bombardement atomique, comment pouvons-nous y faire face, à moins justement d'avoir nous aussi honte de nous-mêmes? Quelle effrayante inversion de sentiments quand on y pense. Supposons donc une jeune fille, honteuse de son visage marqué par des kéloïdes. Dans son esprit, cette honte est comme la ligne de démarcation qui lui permet de diviser les habitants de notre planète en deux catégories. Les filles qui ont des kéloïdes, le reste de l'humanité qui n'en a pas. Face à cette humanité-là, les filles de la première catégorie ont honte d'être défigurées. Sous les regards de tous les autres hommes, elles se sentent humiliées. Quel choix de vie peuvent faire ces jeunes filles, chargées de leur fardeau d'humiliation et de honte? L'une des solutions consiste à se terrer au fond d'une maison obscure pour échapper au regard de l'autre. Celles qui ont ainsi choisi la fuite sont certainement la majorité. Elles restent obstinément cachées, immobiles, dans leur demeure de Hiroshima. Et déjà leur jeunesse peu à peu s'en va. Quant aux autres, celles qui ne fuient pas, on peut elles aussi les répartir très naturellement en deux groupes distincts. En premier lieu, il y a celles qui souhaitent la venue de nombreux bombardements atomiques, afin que l'humanité entière souffre comme elle de kéloïdes. Elles trouvent dans cet espoir le soutien psychologique nécessaire pour affronter leur honte et leur humiliation. Ainsi disparaîtraient tous les regards que les autres portent sur leur marque, puisqu'il n'y aurait plus d'autres. Ainsi serait aboli l'effroyable clivage qui sépare en deux notre planète. J'ai effectivement entendu des voix qui formulaient ce souhait et déjà cité un court poème qui va lui aussi dans ce sens. Bien sûr, une telle imprécation constitue une aide psychologique et rien de plus. Et les jeunes femmes qui la proféraient n'ont sans doute eu bientôt d'autres recours que de se murer dans le silence, rejoignant ainsi le clan de celles qui ont choisi la fuite.
Merci beaucoup, Alice, pour cette la lecture de ces de ces deux textes extrêmement forts qui nous font vraiment avancer, je crois, dans la compréhension de la honte. Moi, je suis frappé dans le premier par ce jeu sur solidarité, désolidarisation comme facteur d'une nouvelle solidarité. Donc peut-être on pourrait repartir de là, si tu le souhaites, ou d'autres choses. Et puis aussi de ce jeu que fait Kenzaburo Oe entre la honte des victimes et cette honte des victimes qui nous fait honte à nous-mêmes.
Donc, oui, ce sont deux textes qui effectivement se renvoient, sont très très bien. C'est très bien de les avoir lus à côté, parce qu'ils se renvoient comme dans une espèce de jeu de miroir.
Et aucun ne risquait de connaître le travail de l'autre. C'est-à-dire, ils sont écrits. Ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai lu ces textes il y a quelques années, quand je les ai déjà longuement commentés ailleurs, c'est de penser qu'ils font partie. Il n'y a pas tellement de très très grands textes philosophiques, ni même littéraires sur Hiroshima. Il y a eu pendant très longtemps un si grand tabou autour d'Hiroshima. Les philosophes ont mis très très longtemps à s'en emparer. Et la plupart des grandes voix de la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle qui auraient pu écrire sur Hiroshima, eh bien, on les compte vraiment sur les doigts d'une main. Donc là, les deux textes qu'on a lus, qui sont empruntés donc aux notes sur Hiroshima de Kenzaburo Oe et à l'homme sur le pont de Günther Anders, font partie de la petit ensemble de très grands textes de réflexion écrits sur Hiroshima. Et évidemment, en lisant, j'avais été frappé par le fait que l'un et l'autre mettent au cœur de leur réflexion la honte.
Voilà, c'est l'un et l'autre mettent au cœur de la réflexion la honte, et l'un et l'autre aussi mettent au cœur de leur réflexion le silence, le silence des victimes. Ce silence-là, je le trouve très fort dans le texte de Anders. Il y a cette visite dont tu as parlé, et au fond, avec ce voyageur, cet homme d'affaires qui pourrait avoir l'impression d'observer un rite de personnes, des rescapés qui communient dans le même silence au fond, mais c'est un silence en même temps qui est indécidable, c'est-à-dire que c'est un silence qui est opaque, c'est un silence dans lequel on ne peut pas donner des mots sur ce qui s'est passé pour une vie. Et ça, je crois que ça rend tout de suite une espèce de suspicion sur laquelle d'ailleurs Kenzaburo Oe va beaucoup insister à propos dans ses notes de Hiroshima, lorsque confronté au défilé des manifestants anti-atomiques, il va être justement lui-même confronté au silence des rescapés. Que faire de ce silence ? Et en quoi finalement une vie ne loge pas dans un témoignage, ne peut pas loger dans tous ses aspects les plus minuscules, les plus ordinaires, dans quelque chose qui serait une dénonciation de ce qui s'est passé. Il y a quelque chose dans la vie qui dépasse la dénonciation qu'on peut faire de ce qui s'est passé, et qui d'une certaine manière ne peut persister que dans le silence. Et ça, en plus, c'est très japonais. Je dirais que c'est quelque chose que l'on sent énormément au Japon. J'étais l'an dernier tout l'été au Japon, et il y avait notamment en discussion avec ce qui s'était passé à Fukushima, avec des discussions auprès d'infirmières qui avaient travaillé sur le site, etc. Et ce silence-là était en quelque sorte la condition sine qua non pour pouvoir entrer dans le drame. Et je crois que trop souvent, nous, en particulier occidentaux peut-être, nous allons vers le témoignage, vers la dénonciation, vers la dénonciation de la violence meurtrière, du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Et nous oublions au fond que il y a quelque chose comme une vie, au sens presque indéterminé de l'article, une vie, au sens presque de Maupassant, au sens presque de ce que la littérature peut dire, justement, du silence des vies. Nous oublions qu'il y a une vie qui ne peut pas être totalement capturée par un témoignage, y compris par un témoignage qui porterait sur la dénonciation. Et ça, ça me frappe beaucoup, la lecture des textes. C'est-à-dire que ce sont deux auteurs, Anders et Howe, dans deux circonstances finalement assez distinctes, mais en même temps proches, qui rentrent dans le silence de vie, qui sont confrontés à la catastrophe. Et je crois que c'est une entrée fondamentale pour comprendre que la honte... Pour restituer pleinement quelque chose comme une philosophie de la honte dans ces deux passages.
Alors comment tu articules justement à la fois cette expérience du silence, cet appel du silence qui procède dans le fond de l'idée que toute parole n'est pas, que tout commentaire, que même toute protestation n'est pas à la mesure de ce qui blesse ou détruit la vie. Comment tu relis donc ce constat-là, cette expérience qui appelle le silence et le sentiment de la honte?
Je crois que le sentiment de la honte commence par cet écart qui est très difficile d'appréhender entre, au fond, un futur antérieur, une vie, au bout du compte, aura été détruite, et le fait que, malgré tout, une vie dans ce qu'elle a de singulier continue à se développer jusque dans l'épreuve de la destruction. Et ça, je crois que c'est un point très important. Le texte de Kenzaburo Oe nous installe dans le sentiment de honte des survivants. Qui est lié d'une part à la culpabilité de ne pas avoir d'avoir survécu, et c'est la même honte qui qui s'est développée à propos des camps de concentration pour les rescapés. Ça c'est un point fondamental. Au fond, pourquoi est-ce que moi j'ai survécu et pourquoi est-ce que celui qui était à côté de moi, mon ami, mon frère, mon enfant, mon inconnu, n'a-t-il pas survécu? Donc là, il y a une première dimension de la honte. Et puis, il y a une deuxième dimension de la honte qui intervient, qui se raccroche à cette première dimension. On le voit très bien dans le texte de Kenzaburo Oe, c'est-à-dire, au fond, que qui vient de ce que la vie du survivant n'est pas la vie de monsieur et madame tout le monde, n'est plus la vie de monsieur et madame tout le monde. Et une vie aura été détruite, le futur antérieur, il faut l'entendre aussi en ce sens-là. C'est-à-dire qu'une vie aura été détruite au sens également où la vie du survivant ne pourra jamais ressembler à la vie, non seulement de celui qui n'a pas survécu, mais ne pourra jamais non plus ressembler à la vie de celui qui vit sans avoir eu l'épreuve de survivre. Et ça, je crois que c'est un point fondamental, et c'est pourquoi l'une des stratégies du survivant, c'est finalement, c'est particulièrement bien montré, c'est de se rendre invisible aux yeux des autres. C'est de perdre l'attribution de visibilité, c'est de perdre l'impératif d'avoir encore un visage aux yeux des autres. Parce que le survivant est celui qui a fait l'objet d'une métamorphose à ses dépens. Et ça je repensais en écoutant ce texte, finalement, à la nouvelle de Kafka, la métamorphose, différemment de nous. Parce qu'au fond, Grégor Zamza, qui se trouve le matin, qui se réveille le matin et qui se trouve transformé en cafard, etc., sortir d'une nuit agitée, au fond, c'est le symbole de tous ces survivants-là. C'est celui qu'on ne veut plus voir parce que son visage, parce que son allure a été transformée. Et c'est celui qui n'a guère d'autre possibilité que de se terrer sous ses draps pour être invisible, y compris aux yeux de ses proches. Et il y a toute cette relation avec sa sœur qui s'établit à ce moment-là, sur cette fragilité extrême. Et ça, je crois que c'est un point qui est très fort dans le texte de Kenzaburo Oe. Alors, est-ce qu'on peut, à partir de là, repartir dans une analyse de la solidarité et de la désolidarisation comme Anders nous y encourage? Je crois que oui, parce que précisément, qu'est-ce qui se joue là dans la honte du survivant? Il se joue, au fond, la constitution d'une communauté des fragiles, d'une communauté précaire, dans laquelle, au fond, c'est l'extrême vulnérabilité des uns qui attache les uns aux autres, qui attache les survivants aux survivants. Et ce que Anders nous dit, c'est que, justement, il s'agit de repartir de cette communauté des précaires, de cette communauté précaire, vulnérable, etc., pour refaire l'humanité. Et c'est là où la honte est renvoyée, au fond, à une interrogation forte sur la honte d'être homme, parce que, justement, au fond, et c'est là où la honte est renvoyée à celui qui n'est pas ce survivant-là, celui qui est ce simple vivant, et qui a honte à ce moment-là d'être homme, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir honte d'être homme? Ça veut dire que j'ai honte d'une humanité qui a produit cette extrême vulnérabilité. Et donc je me désolidarise de cette humanité qui a produit cette extrême vulnérabilité, avec l'espoir de refaire l'humanité par cette communauté dont parle Anders.
Oui, je crois que tout ça est très... Je voudrais juste préciser quelque chose que, bien évidemment, j'ai choisi pour cette séance, si de porter l'attention sur Hiroshima. On en a même beaucoup parlé avec Guillaume il n'y a pas très longtemps. On avait beaucoup d'autres textes possibles, et bien évidemment, énormément de textes que je n'oublie pas et qui est lié à la mémoire de la Shoah, aux survivants. Il y a des textes de Primo Levi, de Robert Antelme, des textes de Jean Améry. Je crois savoir, après en avoir parlé un peu avec mon prochain invité, celui du mois de janvier, qu'il en sera question, dont ces textes-là sont presque un peu en réserve pour ces thématiques-là, puisque la séance du mois de janvier sera consacrée à honte et humiliation. Et donc là, nous allons retrouver beaucoup de ces thématiques propres. Mais bien évidemment, ici, toutes ces analyses qu'on fait, et je te remercie d'y avoir fait allusion tout à l'heure, toutes ces thématiques si importantes de la honte du survivant, de la place du survivant, on aurait tout à fait pu les analyser à partir de la Shoah et des survivants.
Là, je voulais juste enclencher sur un de tes passages dans le consentement meurtrier.
Ça c'était encore jamais fait aussi dans les séances.
Il y a quelque chose de sensible aussi dans cette circulation qui a à voir avec notre sujet, je pense.
Du moment que tu ne me demandes pas de l'expliquer, c'est quoi?
Et justement, par rapport aux notes de Hiroshima sur lesquelles tu as travaillé, et sur ce texte que vous avez lu, au fond, cette communauté des souffrances, nous sommes en dette à l'égard d'elle. Et cette notion de dette, je crois qu'elle marque une dramaturgie de la honte. Tu le dis d'une très forte manière quand tu écris « La dette incommensurable reste donc impayée, aussi bien par les responsables politiques que par les spectateurs, peu soucieux les uns comme les autres, voilà la tragédie, de rendre droit aux nouvelles formes de vulnérabilité et de mortalité engendrées par le désastre atomique. » Parce que la question, c'est justement celle-ci, c'est comment rendre droit à cette souffrance? Comment répondre de cette souffrance? Vous voyez, depuis le début, il me semble que l'un des fils de la réflexion, c'est de dire que la honte est le discernement perceptif d'un mal, d'une catastrophe, et qu'en même temps, ce discernement appelle une réponse politique. Ce discernement, en quelque sorte, appelle une réponse politique dans la mesure où, justement, nous sommes collectivement placés en dette à l'égard de cette vulnérabilité extrême, de cette souffrance. Et la question qui se pose alors, c'est au fond, mais quelle est la réponse qui est apportée? En quel sens pouvons-nous, en quelque sorte, répondre de cette souffrance?
Alors la question, je voudrais pousser encore un peu plus loin, c'est-à-dire que là, ce qu'on comprend bien en t'écoutant, c'est à quel point la honte est un sentiment légitime. Mais est-ce que tu irais jusqu'à dire que, du coup, du point de vue de cette articulation de la morale et de la politique qui t'importe tellement comme moi, elle est aussi nécessaire?
Oui, je pense que je ferai une distinction entre la honte et l'humiliation de ce point de vue, le sentiment d'humiliation, le sentiment de honte.
C'est pas la même chose du tout, justement.
Non, justement, mais y au fond, souvent on confond les deux. Hein, j'ai honte, c'est-à-dire je suis humilié.
Ici, on a rappelé dans la première séance, on a rappelé très longuement que la honte était vraiment un pharmacon, c'est-à-dire qu'elle peut aussi bien être un remède qu'un poison, et puis il n'y avait pas que la honte, effectivement, on le voit tout au long de cette séance, un sentiment légitime pour répondre de la violence, dans un certain sens, face à la violence.
Oui,
et
ça.
À ses traces, mais qu'elle est aussi, la honte, on l'a beaucoup rappelé la dernière fois, aussi, elle peut être elle-même, et à ce moment-là, elle se confond souvent avec l'humiliation, la pire des violences qu'on peut faire à autrui, que lui imposer la honte, lui faire honte, lui le forcer à éprouver de la honte, à se sentir honteux, c'est une forme de violence extrême. Donc, c'était juste pour dire qu'on
Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, parce qu'il y a un fait qu'on ne mesure pas suffisamment, c'est que en général, et c'est vraiment valable pour ce qui se passe actuellement avec les disparus de la Méditerranée, on imagine que la honte, elle vient de nous autres qui avons honte de ce qui se passe. Mais il y a une réversibilité de la honte. La honte, c'est d'abord aussi celle de ces deux frères qui sont contraints à l'exil et qui éprouvent dans leur propre corps la honte de devoir partir. C'est-à-dire qu'ils éprouvent l'arrachement à leur pays comme justement un mal qu'on leur inflige. Donc la honte, c'est pas simplement nous devant ce qui se passe, c'est aussi justement d'abord et avant tout, elle est portée par ceux-là même qui partent. Et je crois que c'est très important de rétablir cette espèce de circulation dans la honte si on ne veut pas effectivement trop rapidement, à travers la honte, au fond, éprouver quelque chose comme un sentiment moral qui ne concernerait pas justement celui pour qui on a honte. Ça, je crois que c'est un premier point que je voulais dire. Ensuite, il y a un second point qui me semble important dans ce que tu as rappelé, qui est très juste, c'est que finalement, je crois qu'il faut replacer le sentiment de honte dans une perspective presque anthropologique, comme une manière déjà de, peut-être, de, non pas de domestiquer une violence, mais de prendre la mesure d'une violence. Je dirais que éprouver une honte, c'est prendre la mesure d'une violence, c'est prendre la mesure d'un mal. C'est donc commencer à construire un récit de la violence. C'est la violence, d'une certaine manière, elle est hors récit, c'est-à-dire qu'elle se déploie par l'affirmation, elle suspend la possibilité du récit, et c'est pourquoi je vais te dire, je dirais tout à l'heure, je tenais tant à ce qu'on finisse avec
le
texte de la supplication. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, dans la honte, c'est déjà une espèce, mais au sens fort du terme, d'arrangement avec la violence, avec le mal. Arrangement ne veut pas dire qu'on s'accommode, c'est pas une accommodation. C'est une manière d'entrer en humanité, c'est une manière de comprendre humainement qu'il y a de la déshumanisation dans ce qui arrive.
Voilà, peut-être que ce qu'on n'a pas suffisamment dit, mais qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, quand on fait ici de la honte un sentiment non seulement légitime, mais nécessaire face à la violence, c'est évidemment pour l'opposer à l'indifférence, à la résignation, au choix de ne rien entendre et de ne pas voir, de se fermer les yeux et de se boucher les oreilles, à toutes ces formes, dans le fond, de consentement à la violence, qui sont autant de déni
de déni de cette responsabilité, de ce sentiment de responsabilité, de ce sentiment de solidarité qui se rejoue dans la honte. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de mettre en place, et c'est ce que montre très bien le texte de Günther Anders, c'est que il y a dans la façon de se désolidariser communément du mal, tout en assumant la responsabilité, une nouvelle solidarité qui se recrée, qui est évidemment à l'opposé de l'indifférence, de la résignation, de l'oubli, etc.
Oui, c'est exactement ça. C'est ce que tu appelles le consentement. Le consentement, au fond, c'est quoi?
Ça s'appelle le consentement meurtrier.
Le consentement meurtrier, la forme extrême du consentement meurtrier, c'est l'indifférence. C'est le fait de ne pas se sentir concerné. Et par rapport à cette indifférence, il est certain que la honte introduit une manière de se sentir concerné par ce qui arrive. La honte nous fait entrer dans un concernement à l'égard de ce qui arrive. Et c'est ce concernement qui importe, qui donne la grandeur morale de la honte.
Et c'est, voilà.
Par le concernement, j'introduis dans une perception une grandeur morale. Et c'est pourquoi d'ailleurs je peux qualifier ce qui arrive comme étant un mal, une catastrophe, puisque d'une certaine manière j'ai introduit cette grandeur morale.
C'est ce qui est très fort dans le texte de Günther Anders, quand à la fin il dit ce qu'on avait en commun, c'est la honte d'être des hommes devant les hommes. C'est-à-dire à ce moment-là, la honte d'être des hommes devant les hommes, c'est exactement le choix délibéré, l'épreuve d'ailleurs, c'est une épreuve, de ce concernement par opposition à toutes les formes de défense qu'on peut construire. Non, mais de toute façon, je suis pour rien, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, etc. etc.
Voilà. Oui, c'est ce que Günther Anders aussi appelle l'identité de sentiment. En fait. Nous sommes reliés par un même concernement à l'égard de ce qui est arrivé et à l'égard de ce qui pourrait encore arriver. Et je crois que, en ce sens, si on prend au sérieux la honte comme manière de vivre dans le concernement, je pense que d'une part on sort de la tentation en quelque sorte de l'indifférence, mais on sort aussi peut-être d'une seconde tentation qui n'est pas de même nature que la première, mais qui serait une espèce de double un petit peu trop moralisateur porté sur celle-ci, c'est qu'on sort également de la tentation qui pourrait être légitime, qui est celle de la consolation. Parce que au fond, la honte ouvre une dimension d'inconsolable à l'intérieur du drame de ce qui se passe. Et donc un principe d'espérance en ce sens.
Exactement. Alors, c'est ça, ça nous amène au dernier texte. Alors, quand on s'est vu il n'y a pas très longtemps, on était tout de suite d'accord sur tout l'ensemble des textes. Et puis, Guillaume m'a dit, mais tu sais, moi, j'aimerais bien finir, si on peut, par un texte de la Supplication. Alors, la Supplication, c'est un livre très dur. Pas dur à lire, mais c'est pas dur à lire au sens où ce serait philosophique, compliqué, ça. Et c'est un livre très, 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 très dur à lire, à supporter. C'est un livre de Svetlana Alexeïevitch, qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature, comme vous le savez. Svetlana Alexeïevitch, elle a une technique vraiment littéraire qu'elle a créée, qui consiste à recueillir des témoignages, donc elle a recueilli, hein, et à construire, ensuite elle les monte, un peu comme on monte un film, elle monte ses témoignages, et ça fait effectivement des récits absolument bouleversants. Il y en a un des premiers qui l'a fait connaître, s'appelle Les Cercueils de Zinc. Et Les Cercueils de Zinc avaient été montés, c'était un recueil de témoignages, essentiellement de soldats russes revenus de la guerre en Afghanistan ou de leur famille. Les Cercueils de Zinc étant des cercueils vissés que les parents ne pouvaient pas évidemment ouvrir, dans lesquels arrivaient les restes des enfants, de leurs enfants morts sur le front Voilà, Gad Elmaleh. Et alors, celui-là est déjà très très dur à lire. Les cercueils des uns, il y a des passages d'une force. La supplication, c'est, j'aurais envie de dire, encore plus dur. Parce que la supplication raconte et fait à partir de témoignages des survivants de Tchernobyl. Des survivants de Tchernobyl et notamment aussi de... Alors, en réalité, c'est rarement des survivants, c'est en général leurs femmes qui témoignent. Des femmes de ceux qui ont été envoyés à Tchernobyl éteindre le réacteur. Et c'est un livre presque insoutenable parce que dans ce livre, les femmes décrivent la décomposition physique progressive du corps de leur mari. Et donc il y a des scènes extrêmement très très dures à lire. Et donc Guillaume me dit, moi, je voudrais qu'on finisse cette séance en lisant un passage de la supplication. Comme je n'ai jamais rien à refuser à mes invités, et que je suis moi aussi un très grand admirateur et un lecteur de Svetlana Alexeïevitch, comme peut-être certains d'entre vous, je lui dis, eh bien, vas-y et fais-en ce que tu crois pouvoir en faire. Donc, Alice, nous allons écouter maintenant ce passage de la supplication. La supplication, je crois que je l'ai ici. Je crois que je l'ai remis sur la table. Voilà. Ce livre, voilà, Tchernobyl. Chronique du monde d'après l'Apocalypse. Le livre de Kanzaburo, Notes de Hiroshima, et les textes de Günther Anders sont recueillis dans un volume qui s'appelle Hiroshima et partout. Alice, nous vous écoutons.
J'ai en tête un grand film que je n'ai pas tourné. Plusieurs séries même. Il se tait. Nous sommes tous des vendeurs d'Apocalypse. Nous entrons avec les soldats dans une maison occupée par une petite vieille. « Viens, grand-mère, il faut partir. »« D'accord, les enfants. »« Allez, ramasse tes affaires, grand-mère. » Nous l'attendons dehors en fumant. Elle sort très vite, avec dans les bras une icône, un chat et un petit baluchon. Elle ne veut rien d'autre. « Grand-mère, tu ne peux pas emporter ton chat, c'est interdit. Ses poils sont radioactifs. »« Non, les enfants, je ne partirai pas sans lui. Je ne peux pas l'abandonner, c'est ma seule famille. » C'est avec cette grand-mère que cela a commencé. Avec ce pommier en fleurs. Maintenant, je ne filme que des animaux. Je vous l'ai dit, j'ai découvert le sens de ma vie. Une fois, j'ai montré à des enfants mes sujets sur Tchernobyl. On m'a fait des reproches. Pourquoi ? Il faut pas. Ils vivent déjà dans la peur, au milieu de toutes les conversations. Leur formule sanguine a changé. Leur système immunitaire est atteint. J'attendais un auditoire d'une cinquantaine de personnes, mais la salle était pleine. On m'a posé toutes sortes de questions, mais l'une d'entre elles est restée gravée dans ma mémoire. Un garçon qui rougissait et balbutiait a pris la parole. Apparemment, il était timide et taciturne. Il m'a demandé « Pourquoi ne pouvait-on pas sauver les animaux qui sont restés là-bas ?» Je n'ai pas pu lui répondre. Nos livres, nos films parlent seulement de la pitié et de l'amour pour l'homme. Rien que pour l'homme. Pas pour tout ce qui est vivant. Pas pour les animaux ou les plantes, cet autre monde. Mais avec Tchernobyl, l'homme a levé la main sur tout. Je voudrais tourner un film, Les otages, sur les animaux. Vous vous souvenez de la chanson « Une île rousse voguait sur l'océan » ? Un bateau coule, les gens montent dans les chaloupes de sauvetage, mais les chevaux qui étaient à bord ne savaient pas qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les canaux. Ce serait une parabole moderne. L'action se passe dans une planète lointaine, un cosmonaute dans sa combinaison étanche. Ses écouteurs lui transmettent un bruit. Une chose énorme se précipite vers lui. Un dinosaure ? Sans vraiment comprendre de quoi il s'agit, il fait feu. Un instant plus tard, une nouvelle apparition. Il détruit cet être également. L'instant d'après, c'est un troupeau entier qui déboule dans sa direction. Il fait un carnage. Or, en fait, ces animaux se bornaient à fuir un incendie qui s'était déclaré non loin de là. Une chose extraordinaire m'est arrivée là-bas. Je me suis approchée des animaux, des arbres, des oiseaux. Ils me sont plus proches qu'auparavant. La distance entre eux et moi s'est rétrécie. Je suis allée à plusieurs reprises dans la zone pendant toutes ces années. Un sanglier bondit hors d'une maison abandonnée et pillée. Une biche sort d'une habitation. J'ai filmé tout cela. Je veux faire un film et tout voir au travers des yeux d'un animal. Qu'est-ce que tu filmes, me reproche-t-on ? Regarde autour de toi, il y a la guerre en Tchétchénie. mais saint François prêchait aux oiseaux. Il parlait aux oiseaux comme à ses semblables. Et si c'était les oiseaux qui parlaient dans leur propre langue et non lui qui s'abaissait jusqu'à eux? Il comprenait leur langage secret. Vous vous souvenez de Dostoïevski? Il parlait d'un homme qui fouettait un cheval sur ses yeux dociles. Un fou. Pas sur la croupe, mais sur ses yeux dociles. Sergueï Gourine, opérateur de cinéma.
Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le témoignage là que recueille Svetlana Alexeïevitch, c'est celui donc de cet homme, Sergueï Gourine, qui parle à la première personne du singulier, puisque c'est le principe des livres de Svetlana Alexeïevitch, c'est une succession de paroles à la première personne du singulier, et donc Sergueï Gourine est ici. Alors j'ai deux questions essentielles à te poser, Guillaume. D'abord, quand tu m'as envoyé ce texte, que tu as scanné, je pensais à plein de choses dans la supplication, j'ai lu, mais il y a déjà 5 ans, et pas assez. J'ai été d'abord surpris, intrigué par ton choix, et donc voilà, tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi ce texte, qui semble à la fois, qui est très beau, et vous avez vraiment, Alice, magnifiquement lu, vraiment un grand merci, c'était très vibrant, de façon de le dire. Et peut-être que tu nous expliques comment tu rattaches cet extrait donc à notre interrogation du jour. Et mon autre question, tu y répondras dans l'ordre qui te convient, c'est qu'évidemment il y a le titre et il y a le mot, et il y a ce mot de supplication qui veut dire aussi, dans lequel on entend la prière, la demande, la prière, supplier. Et alors là, par contre, je crois apercevoir comment cette dimension de la prière, de la supplication, se lie à celle de la honte. Et donc peut-être si tu pouvais nous dire comment tu le vois, comment tu l'entends. Donc, je ne sais pas dans quel ordre il convient.
Dans celui-là, c'est très bien. Enfin, va bien.
Ça te va bien. Donc, d'abord ton choix du texte, et ensuite de finir donc sur la supplication.
Oui, je voulais faire ressortir la dimension totale de la catastrophe. Le sujet d'aujourd'hui, c'est bien la honte la honte et la catastrophe, la honte devant la catastrophe. La catastrophe, c'est, nous l'avons vu et dit, c'est ce qui a l'œuvre dans une catastrophe, c'est quelque chose comme un mal, c'est-à-dire un principe de destruction. Le risque de l'analyse de la catastrophe, c'est précisément de fermer cette destruction à ce que les hommes font aux hommes. Et c'est une dimension qui est bien évidemment présente dans la supplication d'Alexeïevitch, puisque Tchernobyl est un désastre qui détruit des vies humaines. Mais dans le passage que je t'ai envoyé, que vous avez
transmis à
lui, voilà, cette espèce d'étrange circulation un petit peu virtuelle, mais ô combien réelle. Ce qui m'a vraiment retenu, c'est ce fait que la catastrophe, elle touche aussi la destruction de la vie en général. C'est au fond l'élargissement de la destruction que les hommes font aux hommes à la destruction de la vie en général. Et c'est l'impossibilité, justement, et c'est ce qui rend encore plus catastrophique la catastrophe, c'est l'impossibilité de produire une clôture entre ce qui arrive de destruction concernant les vies humaines et ce qui arrive à l'ensemble de la vie. D'une certaine manière, une zone irradiée, c'est une zone dans laquelle c'est le principe même de vie qui est en quelque sorte comme suspendu. Ça, c'est dans une première approche. Ce qui nous conduit du coup à élargir la question de la solidarité dont il était question dans les textes antérieurs, puisque nous sommes solidaires des autres humains, mais nous sommes aussi solidaires au fond des autres formes de vie qui sont potentiellement ou réellement détruites par quelque chose comme une catastrophe. Et donc nous avons aussi à élargir notre solidarité à l'égard des autres vivants. Et c'est le rappel de François d'Assise à la fin du texte d'Alexievitch, justement, le fait superbement apparaître. La solidarité n'est pas simplement une solidarité anthropologique, c'est une solidarité au fond cosmologique, c'est le fait de vivre dans un monde, ce qui implique d'ailleurs une dimension dont nous n'avons pas parlé mais qui était en filigrane, c'est-à-dire la dimension d'un soin, sur laquelle tu insistes beaucoup aussi dans le consentement meurtrier d'ailleurs, c'est-à-dire au fond que nous avons à prendre soin de ces vies qui sont qui peuvent être détruites, qui ne le sont pas totalement. Nous avons à prendre soin de la vie en règle générale. Et ce qu'Alexievitch ici restaure, c'est quelque chose comme justement une possibilité de la vie. C'est le troisième élément qui me fascine dans ce texte, c'est quelque chose comme une possibilité de la vie malgré tout, je dirais de la vie malgré tout, jusque dans la destruction. Filmer les animaux, filmer la biche qui est et effectivement il y a un côté, on le voit bien dans le texte, c'est une espèce presque de paysage comme ça glacé, suspendu, dans lequel congelé, et à un moment donné une biche arrive dans cette espèce de congère totale du monde, une biche arrive qui vient par sa simple présence en quelque sorte redonner espoir à la possibilité de la vie malgré tout, et qui donne du coup sens au titre la supplication. Je crois que la supplication, ce qui est vraiment un titre extraordinaire, c'est, je crois, le revers ou l'envers de la honte. C'est comme ça que je voudrais peut-être terminer en disant que...
On a encore une dizaine de minutes.
Oui, non, mais terminer en prenant le temps.
Prendre vraiment le temps de déployer.
Mais parce que j'ai dit tout à l'heure que la honte ne devait pas être confondue avec l'humiliation. Je dirais que la honte, c'est quoi ? C'est au fond une conscience sentimentale au sens fort du terme, parce que c'est un sentiment, le sentiment de honte d'abord. C'est une conscience sentimentale de l'infamie, de quelque chose d'infâme qui arrive. C'est-à-dire d'une grandeur négative qui vient. Mais en même temps, c'est une conscience de l'infamie doublée de la nécessité de répondre à cette infamie. Et je crois que là, il y a un partage très, très, très fort entre la honte et l'humiliation, parce que je crois que l'humiliation, c'est aussi une conscience de l'infamie, mais en tant que précisément cette infamie ne peut pas et ne pourra jamais être changée. Ce qu'il y a d'humiliant dans l'humiliation, c'est que le principe même qui m'humilie, la violence qui m'humilie, je ne peux pas envisager, je n'arrive pas à envisager qu'elle puisse être éradiquée, que d'autres puissent répondre de cette humiliation. C'est pourquoi l'humiliation, elle se rumine en permanence. Il y a une espèce de principe mélancolique et mortifère de la rumination de l'humiliation.
Oui, c'est pour ça qu'elle est très souvent liée à l'expérience du suicide aussi.
Oui, exactement. Et qui contraste, je crois, avec le principe d'espérance qui est quand même encore contenu dans la honte. Il y a encore de l'espérance dans la honte. Alors bien sûr, dans la honte, l'une des caractéristiques de la honte dont on n'a pas parlé, c'est que la honte, elle se redouble en permanence. Elle se redouble en quelque sorte, elle se vit au carré, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire que j'ai honte de ce qui m'arrive, ou j'ai honte de ce qui arrive à quelqu'un, mais en même temps, alors c'est en particulier pour la honte vécue à la première personne, quand j'ai honte de ce qui m'arrive, quand j'ai honte, par exemple, en sortant un petit peu de... Mais il est vain, on peut s'y autoriser, en sortant de la sphère catastrophiste pour revenir à la banalité de la honte, par exemple, sociale, quand j'ai honte d'avoir perdu mon travail, cette honte, elle se redouble.
C'est une catastrophe.
Oui, c'est une catastrophe, exactement. C'est une dimension de la catastrophe. Mais c'est une honte qui se redouble en honte d'avoir honte. Et la honte, la caractéristique de la honte, c'est que au fond, quand elle est vécue à la première personne, j'ai honte de ce qui m'arrive et en même temps, j'ai honte d'avoir honte. Et cette honte d'avoir honte, elle contribue encore davantage à isoler la personne qui a honte de la communauté avec laquelle dont elle fait partie. Et pourtant, malgré cette honte d'avoir honte, je dirais qu'il y a un partage, de mon point de vue, très, très fort entre la honte et l'humiliation, c'est que précisément la honte ne doit jamais devenir un principe permanent d'humiliation au sens où quelque chose de l'espérance demeure dans la route, au sens où justement une réponse est attendue face à la route. Et je crois que tout ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est que la honte est un discernement sentimental d'un mal, ça c'est la première chose, et une deuxième chose, c'est que une réponse est attendue à la honte. Et si une réponse est attendue à la honte, c'est que il y a encore une espérance dans la honte, l'espérance que la chose en quelque sorte soit autrement qu'elle n'est, et c'est en ce sens qu'une demande est adressée dans la honte. Et là je crois que
d'où la supplication,
parce que la supplication c'est une prière au sens fort du terme, c'est une demande. Il faudrait un jour pouvoir faire une histoire politique de la supplication.
De la honte naît la prière, de la honte naît la
demande. On est parti de la vulnérabilité au départ, en disant au fond que la vulnérabilité c'était l'exposition potentielle ou réelle de tous à la blessure. C'est ce qui fait qu'une vie est précaire. Mais je rappelle que dans cette prière, on la retrouve dans le terme précarité. Puisque le précaire, c'est celui qui prie. Précaré, c'est celui qui prie en s'adressant à un Dieu pour venir ou à une institution aujourd'hui pour lui venir en aide. Il n'y a pas de sentiment de honte sans l'idée d'une adresse faite à d'autres personnes pour relever de cette honte.
Voilà, et j'avais envie de dire, pour rebondir sur ce que tu viens de faire, c'est ce qui fait que la honte fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a une différence énorme entre la ressentir et ne pas la ressentir. Si par exemple je vais prendre quelque chose, je vais prendre une situation terrible dont on voit tellement d'images et de récits, je vais prendre la jungle de Calais. La jungle de Calais, ça fait une énorme différence de sentir qu'il y a quelque chose de honteux dans cette situation et d'avoir honte quand même que quelque chose comme cette jungle-là existe avec les conditions d'insalubrité, d'indignité, et d'humiliation. Voilà. Et c'est une énorme différence dans face à cette terrible situation que de ressentir la honte et de ne pas en ressentir. Et bien évidemment que la demande n'est pas la même. Et bien évidemment que si vous avez le sentiment que cette situation est indigne et qu'elle fait honte, si on a un sentiment de honte, alors la demande sera d'une certaine nature. Et si au contraire, non, il n'y a rien de honteux, c'est juste scandaleux. Et scandaleux, c'est juste, elle est à ce moment-là, la demande risque d'être d'une toute autre nature. Et elle ne relèvera pas vraiment d'une supplication.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, la honte, il y a quelque chose de désespérant dans le fait d'avoir honte, c'est que la honte ne change pas par elle-même le monde. Elle n'est pas un principe moteur de changement.
Elle n'est pas suffisante.
Elle n'est pas un principe d'action par elle-même. Mais il faut justement quand même maintenir la honte malgré tout.
Parce qu'elle est le début d'une réponse. Voilà.
Je voudrais terminer sur cette honte malgré tout. C'est-à-dire que la honte n'est pas une politique, n'est pas une médecine, elle n'est pas non plus une consolation, mais elle doit être maintenue comme principe éthique malgré tout, parce qu'elle est effectivement ce qui enclenche, ou ce qui doit enclencher une réponse politique. Elle est le commencement d'une politique. Elle ne tient pas lieu de politique, mais elle est le commencement d'une politique. Et cet énoncé, il faut aussi le repenser dans l'autre sens. C'est-à-dire une politique qui n'aurait pas comme prolégomène, comme point de départ, une perception de l'intolérable, court le risque de descendre en quelque sorte en grandeur, en n'étant plus qu'une administration et en cessant d'être une politique.
Si je peux, je dirais à ce moment-là, quelle est la honte ? Une voie de dégagement. Elle est une voie de dégagement, une voie de dégagement hors de quoi ? Elle est une voie de dégagement hors de la résignation, hors du consentement passif ou actif d'ailleurs, hors de ce refus, dans le fond, de la moindre forme de solidarité.
Oui, c'est exactement ça. Elle est une voie de dégagement et c'est pourquoi elle n'est pas, alors qu'on pourrait croire qu'elle l'est, elle n'est pas tant tristesse, désolation, voire consolation, avec, c'est-à-dire au fond une manière de s'accorder avec ce qui est, que principe d'espérance. Et ce principe d'espérance, il est toujours ouvert par le sentiment de dégagement de la honte.
Oui, elle rouvre quelque chose.
Oui, la honte m'engage dans une situation dite catastrophique, mais en même temps, elle m'y engage sur le mode d'un dégagement, c'est-à-dire qu'elle fait entrevoir la nécessité, justement, d'une réponse à ce qui advient.
Bien. Eh bien, je crois que ça sera le mot de la fin. Donc, je voudrais d'abord remercier beaucoup Alice pour ces lectures magnifiques et puis remercier alors très, très heureusement Guillaume pour ce très bel échange. J'étais très heureux de m'entretenir avec lui et donc un grand merci.
Voilà. Merci à toi. Bravo.